Oui, on vient d'entendre des choses magnifiques parce que vous savez, il y a deux façons d'écouter ou les cantiques ou les paroles qui sont données, ou bien pour nous instruire, ou bien pour nous dire Seigneur, c'est pour moi que tu le dis. Hein, on a lu ces deux histoires authentiques et véridiques de cette femme atteinte d'une perte depuis 12 ans et de cette jeune fille qui était morte. Et est-ce que vous saviez que le Seigneur Jésus n'a jamais fait aucun miracle ? C'est une surprise, hein ? Aucun. C'est la réalité. Il n'a jamais fait aucun miracle. Ça, c'est capital. C'est la foi au Seigneur Jésus qui a fait des miracles. Mais la différence, cette femme atteinte d'une perte depuis 12 ans a touché son vêtement par derrière, sans même avoir vu son visage. Mais c'était dit, si je puis seulement toucher son vêtement, j'ai des chances d'être guéri, j'aurais fait le maximum, j'aurais rien perdu. Elle aurait pas été guérie. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Le Seigneur Jésus ne l'avait pas vu. Il ne savait pas qui c'était. Elle n'avait pas vu son visage, mais touché le bord de son vêtement. Et il a dit, mais qui est-ce qui m'a touché ? Les disciples lui ont répondu, mais Seigneur, il y a des dizaines de personnes, tu es pressé par tout le monde. Comment peux-tu ? Mais il avait senti qu'une force était sortie de lui, de quelqu'un qu'il avait touché, appréhendé d'une manière différente des autres. C'est pour ça que nous voulons le dimanche matin, non pas pour recevoir un message fortifiant, mais pour nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui ? Pour moi. Comme une nourriture. Non pas comme un conseil, non pas comme quelque chose d'amical, une chose agréable à entendre, mais pour moi, personnellement, pour le mettre en application. C'est ça qui change tout. Vous savez que la Bible n'est pas un livre qui est fait pour être vénéré, admiré, mais qui est fait pour être lu, bien sûr, parce que si on ne le lit pas, on ne peut pas le savoir. Hein. Maintenant, avec les moyens audiovisuels qu'on a, on peut avoir des moyens de le voir. Mais il est fait pour être, oui, appliqué. Et en plus de prendre, quand je suis arrivé ce matin, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aussi pour moi, parce que j'ai le droit aussi de recevoir quelque chose avec vous. Hein? Il y a ce cantique qui disait, j'ai décidé, il y a au moins 10 fois, j'ai décidé. Et vraiment, c'est un engagement, vous savez que il y a un chrétien qui disait que les chrétiens ne mentent jamais, sauf dans les cantiques. Parce qu'ils chantent des choses qu'ils ne vivent pas. Je parle pour moi, hein, souvent. Seigneur, je me consacre à toi, c'est parti. Puis ensuite, on repart dans le cycle normal de la vie de tous les jours, de tout être commun, les uns et les autres. C'est pas ce que le Seigneur veut. Quand il vient, vous savez, quand on commence la semaine avec lui, le culte, qui est-ce qui est la première personne ici ? Ce n'est pas notre ami là qui était là. Il était là, mais c'était bien, c'était le deuxième. Mais c'est le Seigneur qui est le premier. C'est lui qui nous accueille. C'est pas nous qui l'accueillons. C'est son église. C'est pour ça qu'une église doit être ouverte. Si quelqu'un veut venir aujourd'hui, on n'a pas le droit de le mettre dehors. Il y a des églises dans certains pays où quand quelqu'un est mal habillé, on lui dit « Tu viendras la semaine prochaine quand tu auras lavé ta frimousse et puis que tu te sentiras meilleur. » Non, c'est l'église de Dieu. C'est lui qui nous accueille. On doit la laisser ouverte. Bien sûr qu'après, il y aura des ajustements si quelqu'un vient dans des intentions qui ne sont pas très louables. Mais c'est son église. Il vient nous parler à nous, à tous ceux qui viennent là. Et encore une fois, non pas pour recevoir des conseils, mais pour recevoir ses instructions. Vous savez que le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, c'est le dimanche. Et pourquoi c'est le dimanche ? Pourquoi c'est le dimanche, le premier jour ? Parce que pourquoi ? Il y a une raison précise, non ?
Le jour
du repos. Ah oui, c'est sûr. Non, le jour du repos, c'est le samedi.
Oui.
C'est samedi. Mais pourquoi c'est le dimanche pour nous, le premier jour de la semaine ? Pourquoi ? Il y a une raison très précise sur laquelle vous ne seriez pas là. Mais bien sûr, c'est parce qu'il est ressuscité, et comme il est ressuscité, c'est un jour nouveau. C'est une vie nouvelle qui commence avec lui. En bas, on a partagé avec vous, dans Marc, on a lu quelque chose de Marc tout à l'heure, mais là c'est un petit épisode qui se passe avant et qu'on lit en général pour une raison très précise, mais on va la développer. Jésus apaise la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Donc c'est Marc 4, des versets 35, à la fin du chapitre. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors là, c'est une histoire qui se bat dans des barques. Vous savez qu'il y avait le lac de Tibériade où il y avait des barques qui faisaient l'aller-retour des deux côtés du lac. Et le Seigneur Jésus avait demandé à ce qu'on laisse à sa disposition une petite barque. Vous savez pourquoi il avait demandé ça? Pourquoi il avait demandé qu'on lui laisse une petite barque? Bien sûr, c'est pour ça. Parce qu'il était pressé par la foule, étant pressé, il ne pouvait pas s'exprimer. Il était entouré par la foule. Alors pour qu'il puisse parler sans être gêné physiquement par la présence de la foule, il avait demandé qu'on lui donne une petite barque. Et c'est comme ça que l'on sait une caractéristique physique du Seigneur Jésus. C'est peut-être la seule. On ne sait pas quelle taille il avait, s'il était grand ou petit, quelle était la couleur de ses yeux, on ne sait pas. À tel point même que quand Judas est venu le trahir, il a dit à ceux qui l'accompagnaient, aux soldats, aux sacrificateurs, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là. » Donc il n'avait rien pour le distinguer des autres, d'autant plus qu'il naît en pleine nuit. Ah, mais on sait quand même une caractéristique physique du Seigneur Jésus. Et bien, c'est qu'il avait une voix qui portait. Mais oui, parce que pour être dans la barque, déjà à quelques distances de la terre, vous savez, quand il y a une interposition d'eau et puis de terre, il y a aussi un affaiblissement des échos. Donc il devait avoir une voix qui portait. Une voix qui avait un retentissement. Donc ça, on le sait. C'est la seule chose, puis finalement, ça suffit. Hein? Qu'on sache reconnaître sa voix dans nos cœurs, elle peut porter aussi, hein, même si elle est plus personnelle. Alors là, on sait là que c'est une voix qu'on n'oublie pas quand on l'a entendue. Alors là, donc, on parle de cette barque. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Donc cette barque-là, où était le Seigneur Jésus, c'était quelle barque? Celle des disciples ou celle du Seigneur Jésus? C'est marqué là. Comment? Oh, je lisais. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, lui. Donc les disciples sont montés dans sa barque. Ça, c'est formidable. Et il leur dit juste avant, passons sur l'autre bord. Donc c'est lui qui prend la décision de passer sur l'autre bord et en plus dans sa barque. Alors vous savez, pour nous, ça nous parle beaucoup. Parce que dans la conversion, on ne devient pas chrétien parce qu'on est né chrétien. Comme on dit souvent, Dieu a des fils, mais n'a pas de petit-fils, ni de petite-fille, on peut dire, parce que les dames ne sont pas exclues du salut. Ah non. Donc Dieu a des fils, mais pas des petits-fils. C'est aussi bien, hein, parce qu'on ne choisit pas Dieu de manière involontaire. Vous savez que c'est le seul roi qui nous demande l'autorisation de régner sur nous. Il n'y en a pas d'autre, hein. Il n'y a pas d'autre tyran. C'est le seul. Alors la conversion, elle a deux étapes. C'est d'abord la réconciliation avec Dieu. C'est écrit dans Romains 5. On est réconcilié par quoi? Mais par l'amour de son fils, il est mort pour nos péchés, commis, par commission, par omission, et encore plus pour ce péché originel qu'a commis notre ancêtre Adam, qui fait que l'homme est devenu indépendant de Dieu et a choisi sa voie personnelle. Il est mort pour cela. Et maintenant, le ciel est ouvert. Ouvert pour nous. On peut dire Père. Ce n'est pas uniquement notre Créateur, mais notre Père pour nous qui avons cru. On est réconciliés. Mais est-ce que ça suffit d'être réconcilié? Ben non, parce que le Seigneur Jésus est toujours mort. On est réconcilié par sa mort, il est mort. Alors on est sauvé par quoi? Ben par sa vie. S'il était resté dans le tombeau, on serait encore avec lui. On serait réconcilié, mais enfin, on aurait une vie un petit peu écourtée quand même. En fait, non, il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, nous sommes sauvés par sa vie en nous. Puisqu'il nous le dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que l'Esprit du Père viendra en vous. Il sera avec vous et il sera en vous. Alors maintenant, Il y a un choix à faire, puisque vous disiez tout à l'heure que j'ai décidé. Hein. Alors c'était pour moi, parce que le Seigneur me le disait, peut-être pour vous aussi. Vous savez que la seule fermeté que Dieu nous demande, c'est laquelle? Est-ce qu'il demande à ceux qui ont une forte personnalité de l'exercer, ou à ceux qui en ont moins, de faire des progrès? Ben non. Puisque ceux qui étaient forts, il les a affaiblis. Il a affaibli Moïse, il est obligé de le briser. Pierre aussi, hein, il s'occupait de lui. Et ceux qui étaient faibles, il les a dit, va avec la force que tu as, à Gédéon, à Josué. La seule fermeté que Dieu nous demande, et nous demandera toujours, parce qu'il ne pourra pas l'avoir à notre place, c'est celle de notre choix. C'est là qu'il la demandera tout. J'ai décidé. C'est extraordinaire, non? Une chose toute simple, j'ai décidé d'obéir à sa parole. C'est la chose qu'il nous demande. Et non pas de la caresser dans le sens du poil en la trouvant merveilleuse et bien écrite, mais d'y obéir. La Bible, c'est un livre de recettes. Il faut appliquer à la lettre ce qui est dit. Seigneur, tu m'as dit aujourd'hui, je me donne l'application. Aujourd'hui, vous savez, on doit conduire à 80 à l'heure, à la place de 90. C'est pas très très agréable, hein? Mais si on ne le fait pas, on n'obéit pas aux autorités. On dit, ouais, 80, si, savez, heureusement personne ne me regarde, je vais pouvoir accélérer à 120. Mais il y a quelqu'un qui nous voit quand même. Hein? C'est celui à qui on a décidé d'appartenir. Et si on n'est pas soumis, si je ne suis pas soumis aux autorités, est-ce que je suis soumis à Dieu? Ah. Non? Mais non. Il est marqué dans la Bible qu'il n'est pas d'autorité qui n'a été donnée par Dieu. Il y en a qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas. Il appartient aussi aux chrétiens de prier pour que Dieu change les autorités si elles ne sont pas selon son cœur. Mais elles sont là, on doit y obéir. Or si je n'obéis pas à la restriction de limite à 80, je n'obéis pas à Dieu. C'est marqué, là. On peut dire, Seigneur, donne-nous des dirigeants qui nous plaisent, ceux-là ne nous plaisent pas. Ceux-là, il a une grande barbe, il n'a pas des beaux yeux. Je voudrais bien avoir un autre. Ben, écoute, maintenant, c'est moi qui l'ai donné. Je l'ai donné. Il a donné M. Trump aux États-Unis, ils ont voté pour lui, mais non. Il faut être soumis. Puis dire, Seigneur, toi tu peux avoir autorité sur un homme comme lui. C'est le seul qui puisse avoir vraiment autorité sur lui, c'est sûr. Mais il peut. Bien sûr qu'il peut. Et donc, nous, on demande la même chose. Alors maintenant, cette deuxième étape, après la réconciliation, c'est d'obéir à sa voix et de monter dans sa barque à lui. Pour nous qui sommes réconciliés, on dit maintenant, écoute Seigneur, on est réconciliés, on a la paix avec toi, le ciel est ouvert, maintenant, écoute, on se reverra à la fin de notre vie, puis on fera le point, on fera le point, on verra bien ce qui était bon ou pas bon, tu nous diras. Est-ce que c'est la vie? Bien sûr que non. Est-ce que c'est ce qu'il a dit à ses disciples? Il n'a pas dit, écoutez, maintenant, vous avez reçu toutes les instructions, vous avez eu quelques miracles, maintenant, allez-y, puis on se reverra à la fin de l'année. Et non. Ils sont montés dans sa barque. Il faut savoir pour nous, est-ce que nous sommes montés dans la barque du Seigneur Jésus, ou bien est-ce que nous avons continué notre propre barque, la nôtre? C'est les fruits qui le montrent. Parce que le Seigneur nous dit expressément, celui qui me sert, qu'il me suive. Alors c'est une vie en fait de simplicité, de repos. On voudrait bien faire des choses pour le Seigneur. Pour lui faire plaisir. On a un tas de choses qui pourraient lui plaire, surtout celle qu'il ne nous a pas demandé. Et la seule qu'il nous demande, la seule, c'est de monter dans sa barque. Ah, et dans sa barque, il y avait même d'autres barques qui étaient avec lui. Et il dit, passons sur l'autre bord. Alors il y a des personnages de la Bible qui sont réellement montés dans sa barque. Et puis le fruit l'a montré. Il y en a un, même Sabato qui a fait naufrage après, mais il était même dans la barque où Dieu l'avait mis. Il était plein de fruits dans cette barque, qui sait? Dans la barque où il était, où Dieu l'avait mis, il a réussi à sauver 275 personnes plus une, c'est lui. Qui était-ce? Je ne sais pas qui c'était. Il était dans une grosse barque, c'était un bateau qui l'emmenait faire un voyage. Il était dans ce bateau, il n'avait pas choisi d'y aller, puis il était prisonnier. Mais il y était.
C'était Paul.
Mais bien sûr, c'est Paul. Il était dans la barque où Dieu l'avait mis. Il n'avait pas choisi. Hein. Mais il était dans la barque où Dieu avait choisi de le mettre et pour faire de lui un instrument de bénédiction. Eh bien, il a réussi par sa présence, par sa parole, à sauver 275 personnes. Voilà. Il est dans la barque de Dieu. Il y en a un autre dans l'Ancien Testament qui était dans un bateau aussi, mais ce n'était pas la bonne barque. Ah, c'en est un qui... Très bien, bravo. Alors lui était monté contre son gré. En fait, il a désobéi à Dieu. Il est monté dans une barque que Dieu n'avait pas choisie pour lui. Et puis dans cette barque, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses pas très très agréables, ni pour lui, ni pour l'équipage qui était là. Puis ils ont dit, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans cette barque. Et puis Jonas, qui avait quand même une certaine honnêteté, leur a dit, écoutez, c'est à cause de moi que tout se passe mal là. Il fuyait ce que Dieu lui avait demandé. Dans une barque qui était tout sauf celle de Dieu. À fond de cale, il était caché. Mais à fond de cale, même quand on est à fond de cale, si Dieu veut vous mettre en pleine lumière, il vous mettra en pleine lumière. Et donc Jonas a été mis en évidence. Il a dit, écoutez, mettez-moi à la mer, parce que si je reste dans cette barque, vous n'arriverez pas à destination. Hop, ils l'ont jeté dans la mer, mais Dieu a pris soin de lui, puisqu'il l'a mis dans quoi? Dans un grand poisson. Là, c'était la barque de Dieu. Dans un gros poisson, mais Dieu l'a sauvé. C'est pour ça que pour nous, c'est important. Est-ce que nous sommes dans notre barque à nous ou dans celle de Dieu? Il n'y a qu'une seule qui est bonne, vous savez. C'est la sienne. On l'a dit dans le cantique. Tu guideras mes pas. Tu guideras mes pas. Donc, il faut monter dans la sienne. Et qu'est-ce qui va nous montrer si effectivement on y est? C'est les fruits. Il y en a un qui a voulu mener sa propre barque. Il avait un père pourtant qui était plein d'amour pour lui. Il est parti dissiper ses biens tout dans la débauche. Qui c'était? Le fils prodigue. Il a voulu mener sa propre barque, comme on dit. Il y a l'expression qui dit. Il a voulu diriger sa propre barque, mais il l'a dirigée. À un point que... Il a fallu qu'il revienne dans la bonne barque. Et c'est une question que le Seigneur nous pose à chacun de nous. Seigneur, conduis-moi. Depuis le début de l'année, le Seigneur me parle de manière précise, me rappelle une seule chose. Une seule chose est nécessaire. Une seule, il le dit. Alors, on va voir maintenant deux dames qui étaient en fait dans une barque, mais c'était la même maison, mais pas la même barque. Dans Luc, on va le prendre, dans Luc au chapitre 10, c'est deux dames qui n'avaient pas fait le même choix de la même barque. Et pourtant, elles étaient dans la même maison, mais elles avaient deux barques différentes. On va voir. C'est l'histoire bien connue de Marthe et Marie qui reçoit le Seigneur Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors voilà, en fait, c'est deux barques. Le Seigneur Jésus, avec ses amis, ses disciples, débarquent dans la maison. Il dit, c'est la maison de Marthe. Alors, il semble que Marthe devait être la sœur aînée et puis Marie, la petite sœur. C'est de la maison de Marthe. Alors, il débarque avec ses disciples. Et puis Marthe était occupée à faire le repas. Elle cuisait le rôti, elle avait coupé les carottes, elle avait tout mis dans un four à micro-ondes, et puis elle travaillait. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a Marie, qui au lieu de l'aider à préparer la table et puis à déboucher les bouteilles, au lieu de l'aider, elle était assise, puis elle écoutait le Seigneur Jésus parler. On peut comprendre la déception, puis la colère rentrée, plus ou moins rentrée, de Marthe. Mais c'est là qu'on voit qui est-ce que Marthe a reçu. Elle a reçu quelqu'un, un notable, dans sa barque à elle. Le Seigneur Jésus est monté, il n'aime pas tellement ça, hein, mais il va le montrer d'ailleurs. Le Seigneur Jésus est monté dans la barque de Marthe, qui lui fait sentir, hein. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que ma sœur me laisse seule pour servir? Enfin, Seigneur, ressaisis-toi. Dis-lui donc de m'aider. Quand on donne des ordres au Seigneur Jésus, en général, ça ne va pas très loin. Non. Il a répondu avec douceur, là. Mais vous savez, quand le Seigneur Jésus parle, personne ne peut rien dire. Il a une autorité dans sa voix que rien ni personne ne peut contrer. Rien. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Est-ce que tu crois que je suis monté dans ta barque? Mais non. Il faut que toi, tu viennes dans la mienne. Dans la mienne. Après, elle m'a compris. Et Marie avait choisi la bonne barque. C'était celle de l'écouter. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle était paresseuse. J'ai entendu certaines prédications qui disaient que Marthe devait devenir une Marie et Marie devenir une Marthe. C'est une invention totale. La parole ne dit pas ça. Le Seigneur l'aurait dit. Mais comme il ne le dit pas, c'est que Marie avait choisi la bonne part. Elle a certainement aidé Marthe après à faire la vaisselle et puis à tout mettre dans le lave-vaisselle. Elle l'a sûrement aidé. Mais au bon moment, Marie était dans la barque de Dieu. Dans sa barque. La seule dans laquelle il vous demande de monter, c'est laquelle? C'est le où il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ce qu'il a dit à Pierre après sa résurrection. Ils sont partis, si vous l'avez lu, vous le lisez certainement. Après qu'ils soient ressuscités, ils sont repartis pêcher. Avec Nathanaël, avec Pierre, Jacques et Jean, ils sont partis pêcher. C'est la seule chose qu'ils savaient faire. Il était ressuscité, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas après la suite. On va le voir dans Jean 21. Et Seigneur Jésus, dans sa bonté, savait très très bien. Donc, ils ont été pêchés. Après la résurrection du Seigneur Jésus, ils n'ont rien attrapé. Et le Seigneur leur dit, jetez le filet du côté droit. Et une grande quantité de poissons est venue. Après, ils ont abordé sur le rivage où le Seigneur avait déjà préparé des boissons. Et quand Pierre a su que c'était sa voix, parce que Jean lui avait dit, il s'est précipité à l'eau, il était nu, pour aller le rejoindre. Ça montrait l'amour que Pierre avait pour le Seigneur Jésus. Malgré son reniement, il fallait qu'il le renie. Parce qu'il était sûr, dans sa barque à lui, dans la barque de ses bons sentiments, « Seigneur, quand tout le monde te renierait, sauf moi. » Bien sûr. C'était la barque de Pierre, ça. De sa consécration, il était parfaitement sincère, mais il ne connaissait pas son cœur. Il fallait que le Seigneur l'amène à perdre tout espoir dans ce cœur-là. Il lui a pardonné après. Pierre a accepté aussi ce reniement. C'était terrible. Terrible de renier celui pour lequel il avait plus d'amour. Mais il l'a fait. Et après, le Seigneur lui dit maintenant, « Seigneur, Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci ? » Il lui répondit, « Au Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il le répète à trois reprises. Mais dans le texte grec, le Seigneur parle d'amour agapé. C'est l'amour universel de Dieu, un amour qu'on ne peut pas surpasser. La réponse que formule Pierre est un autre verbe. Il dit « Seigneur, je t'aime bien, j'ai de l'inclination pour toi, tu as du prix pour moi, je t'aime bien, mais il ne s'engage plus. » Il le répète trois fois. Et Pierre ne dit pas « maintenant je t'aimerai, je ne te laisserai pas tomber », pas du tout. Il dit « Seigneur, tu sais, ben, je t'aime, mais avec... » Voilà. Il dit maintenant, Pierre, tu as compris que si ce n'est pas moi qui nourrit cet amour dans ton cœur, tu ne tiendras pas. Qu'est-ce qu'il lui dit après? En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Pierre s'étant retourné et vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre lui dit à Jésus et à celui-ci « Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Il dit à nous « Toi, suis-moi. » Il a une barque précise pour vous, la sienne. Un chemin précis pour vous, le sien. Un itinéraire précis pour vous, le sien. Il est totalement différent pour tous ceux qui sont ici. Et totalement complémentaire aussi pour chacun. Pour chacun. Mais c'est sa barque. On peut revenir au texte maintenant qu'on avait, de Marc 4, où en fait, les disciples avaient une chance merveilleuse. Ils étaient dans la barque du Seigneur, puisqu'il dit qu'ils sont montés dans la barque où lui était. Il dormait à la poupe, hein, il dormait à l'arrière, mais il était là. Il leur reproche en leur disant, Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il peut arriver des tourbillons quand on est dans cette barque. Si on est sûr d'être dans la barque de Dieu, il peut permettre, vous savez, des événements qu'on n'aurait pas ni désirés, ni souhaités, ni programmés, dans la santé, dans le domaine professionnel, dans l'âge qui vient. Des choses que... Mais si on est sûr d'être dans la barque, il faut revenir à la base. Seigneur, est-ce que j'y suis? Oui. Tu n'as rien à craindre. Si on n'y est pas, il faut revenir dans la bonne barque. Avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, je me suis trompé. Le fils prodigue s'était trompé. Il est revenu dans la bonne barque. Le fils fidèle n'était pas dans la barque parce qu'il ne connaissait pas son père. Il fallait qu'il le découvre. Il était dans la barque de son père, mais dans ses pensées à lui, dans la barque de ses pensées, de ses conceptions et de son absence de conversion. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils étaient tout surpris. Pourquoi ils étaient surpris? Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui était vraiment le Seigneur Jésus. Mais ils avaient fait ce que le Seigneur leur demandait. La seule chose qu'il leur demandait, ils l'avaient accomplie. Et tout était bien. Quelle était la chose qu'il avait demandé? Que le Seigneur avait demandé aux disciples? Qu'est-ce qu'il leur avait demandé? Qu'est-ce qu'il leur avait demandé? Ils avaient fait la seule chose que Dieu leur demandait. La seule, elle est marquée en toutes lettres, dans les quatre évangiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment?
Ils l'ont
suivi. Ben oui, ce n'est que ça. Le Seigneur est venu, Pierre s'est levé, il a abandonné ses filets. Jean a abandonné ses filets, Matthieu a abandonné son comptoir d'argent, puis ils l'ont suivi. Ce ne sera pas aussi spectaculaire pour nous, quoique c'est possible. Mais ils ont fait la seule chose qu'ils demandaient. Et après, comme ils l'ont fait, le Seigneur a pu se révéler à eux. Mais si le Seigneur se montre à nous, puis qu'on ne le suit pas, ça ne servira à rien. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous on dit, Seigneur, montre-moi ta gloire, et après je croirai. Si ça m'arrange. Dieu ne répond jamais à ça. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Nous on dit, Seigneur, donne-moi tes instructions, on fera un bilan, on fera un audit, et puis après, si ça me convient, je te suivrai. On fait du sur-place. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Parce que si on ne prend pas son joug, on ne peut pas recevoir ni comprendre ses instructions. C'est dans sa barque qu'il les donne. Et les disciples étaient montés dans sa barque. Ils étaient courageux. Ils sont montés sans rien comprendre du tout à ce qu'ils faisaient. Ils l'ont montré à la fin. Ils attendaient un royaume terrestre, c'est un royaume céleste. Ils n'avaient rien compris, ce n'était pas grave. Le Seigneur explique en cours de route. Si vous cherchez à comprendre ce que Dieu veut faire, vous n'irez pas loin. Je ne comprends pas, je ne te demande pas de comprendre. Je t'expliquerai, en son temps, suis-moi. Ils l'ont fait. Et Dieu qui est juste et bon se justifie toujours. Il dit, maintenant c'est bien. Tu as confiance en moi, maintenant voilà. Quand tu te retourneras, je te ferai découvrir le chemin par lequel je t'ai fait passer, qui était le meilleur chemin. Pour toi, le meilleur. Tu ne comprenais pas, ça ne fait rien. Moi, je comprends pour toi. Mais c'est ça. Si vous voulez plaire à Dieu, suivez-le. C'est tout simple. Tout simple. Celui qui me serve, qu'il me suive. On ne peut pas suivre le Seigneur Jésus sans le servir. Par contre, on peut le servir sans le suivre. Mais c'est des choses qui après disparaissent dans le chaud, dans la poussière. Vous voyez, le suivre, c'est autre chose. Hein. C'est prendre ce joug d'amour qui dit maintenant, j'ai tout prévu pour toi. Reconnais-moi dans toutes tes voies et tu verras, je viens planir tes sentiers. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais oui, Dieu aime ceux qu'il aime. C'est tout simple, hein? Et ceux qu'il aime le suivent. Alors, étant réconciliés maintenant, choisissons de monter dans sa barque à lui. Non, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Il a un cahier des charges pour vous rendre compte. Ce cahier des charges, il va l'accomplir. On disait récemment que le Seigneur Jésus, à quel âge le Seigneur Jésus nous met en retraite? Ah, il y a un âge précis. À quel âge il nous met en retraite? On le disait récemment. Ah, il y a un âge extrêmement précis. Mais il nous met en retraite quand on a tous nos trimestres. Et tout l'autre trimestre, ben, c'est quand le dernier trimestre nous conduit vers lui, ou lui vient vers nous. Voilà. La marche avec Dieu s'arrête au jour où on le rencontre, personnellement et pour toujours. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore de nous rappeler combien tu es saint. Tu n'es pas venu pour des sages et des intelligents, mais pour ceux qui reçoivent ta parole et qui la mettent en application. Nous allons dire ensemble, Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Coûte que coûte, Seigneur, c'est le meilleur choix, il n'y en a pas d'autre. Toi qui connais chacun de nos cœurs, qui sais là où tu veux nous emmener ou ne pas nous emmener, tu sais ce que tu peux faire ou ne pas faire avec chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à faire ce bon choix, ne pas nous priver de cette bénédiction réelle, profonde, d'une vie conduite, dirigée par toi et qui portera ton fruit. Permets, Seigneur, que ta parole reste dans nos cœurs, dans mon cœur, et pour le fruit que toi tu veux, et te permet de te révéler et d'honorer ton nom, de nous réjouir en toi. Et nous te remercions encore en ton nom. Amen.